alors, passez un petit peu de musique, alors, puisque vous n'êtes pas prêts ou vous êtes prêts à faire la deuxième partie. J'ai un petit problème pour passer des chansons. Donc, voilà, on va vous mettre le micro. Donc, bonjour à Bernard.
Bonjour.
Et voilà, ben, tant pis, je voulais passer une chanson de Michel Buller qui s'appelle Palestine. Je ne sais pas si tu connais une très belle chanson.
Il faudra la passer plus tard.
Non, mais ça ne passe pas.
Ah bon, ça passe pas. Bon,
problème.
Eh ben, espérons que le reste de l'émission passera.
Oui, alors, ça va vous, on vous entend.
Nous avons invité donc Bernard Ravenel, qui est un ancien président de l'association France-Palestine. Et si nous l'avons fait, c'est que dans l'actualité, les journaux ont traité d'un sujet qui est directement lié à la Palestine, puisqu'il s'agissait pour l'Organisation des Nations Unies de reconnaître ou de ne pas reconnaître la Palestine comme un État, et cette reconnaissance avait été déjà demandée il y a quelques années, je crois dans les années 88 ou 90, peut-être même après, et il n'avait pas été accepté à cause du veto américain. Et donc la Palestine, apparemment, l'autorité palestinienne a fait une demande un peu particulière, puisqu'il s'agit d'être un État non membre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un État non membre ? Un État simple observateur, et la comparaison avec un autre État qui aurait le même statut, qui est le Vatican, nous a aussi étonné. Alors donc, c'est pas seulement sur le plan juridique et administratif qu'on a demandé à Bernard Ravenel de venir, mais c'est au fond pour refaire un petit peu cet historique et en même temps cette actualité tragique, hein, puisque depuis plus de 60 ans, l'État sioniste israélien occupe en partie ou en totalité la Palestine, et que dans l'actualité de ces derniers jours, cet État sioniste, cet État nationaliste, dont un rabbin dont on a parlé déjà quelques fois il y a quelques années, disait que la nationalité conduit à la bestialité, mais malheureusement, c'est effectivement ce qui s'est passé. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup aujourd'hui d'Israéliens qui se rappellent de ces paroles de Leibovitz, du rabbin Leibovitz. Et ce qu'on remarque, c'est que reconnaissance, même comme État observateur, a déclenché des représailles immédiates de l'État israélien, de l'État d'Israël, puisque non seulement il menace et il lance la création de nouvelles colonies, c'est-à-dire de nouvelles implantations en Cisjordanie, au point même que, je ne sais pas, mais Bernard nous le dira, que si ces développements de colonisation sont réalisés réellement, la Cisjordanie, c'est-à-dire la partie la plus importante de la Palestine, quelquefois on a tendance à la confondre avec la bande de Gaza, cette partie risque d'être coupée en deux. Alors donc, première réaction de l'État d'Israël. Deuxième réaction, c'est de supprimer, puisque au fond les frontières sont presque toutes tenues par Israël, de supprimer les droits, les rentrées d'argent qui viennent des échanges commerciaux entre la Palestine et puis le monde extérieur. Alors ça, c'est les problèmes propres à la Palestine, mais ce qu'on voudrait aussi évoquer, c'est les conséquences sur cette situation, sur la tension qui existe actuellement au Moyen-Orient, tant en ce qui concerne l'Iran d'une part, qu'en ce qui concerne la Syrie, et on peut se demander en effet si cette initiative, en quelque sorte, d'avoir fait de la peine à l'État d'Israël, entièrement soutenu par les États-Unis, si cette initiative ne risque pas. Je lisais hier que l'OTAN avait vendu des drones patriotes à la Turquie. Alors, pourquoi en faire ? Est-ce que c'est pour, en effet, se lancer dans une attaque comme Israël prétendait le faire contre l'Iran ? Est-ce que ça aurait des incidences sur les conflits conflit syrien qui sont aussi de plus en plus tragiques, puisque maintenant il y a même une opposition entre les Kurdes de Turquie et de la frontière syrienne et les rebelles, et les rebelles syriens. Donc on se trouve dans un contexte et dans un complexe absolument explosif.
Alors voilà, Bernard, à toi. Bernard, allez.
Ça me fait parler de beaucoup de choses. Je ne sais pas si j'y arriverai en quelques mots.
Mais t'as une heure.
D'abord, il y a un premier paradoxe d'être ici pour parler de l'État. Quand même,
oui,
libertaire, j'imagine que.
Laisse-moi
terminer. Ça veut dire qu'en fait, moi, je me bats depuis des années, pour pas dire des décennies, pour un État, pour l'existence d'un État palestinien. Donc, ça doit être un petit peu complexe pour un libertaire de penser positivement cette bataille. Il faudrait bien sûr revenir à toute la réflexion théorique sur l'État. Mais toujours est-il que aujourd'hui, la nécessité d'un État palestinien souverain est apparue comme à la fois une nécessité pour les Palestiniens. Ils ont besoin d'être indépendants de la tutelle et de l'oppression israélienne, d'être débarrassés, je dirais même, de cette oppression. Et d'autre part, tant qu'il n'y aura pas une égalité de statut entre l'État d'Israël et l'État palestinien, il y aura toujours une tension qui peut aboutir sur une guerre régionale. J'y reviendrai après. Je signale que le concept d'État non membre, en fait, concerne surtout la question du droit de vote. Mais dans État non membre, il y a État. Or, c'est la première fois que la Palestine est reconnue comme État, même non membre, au niveau international.
Ça, c'est quand même un truc, l'État non membre observateur,
oui.
Là, il faut le faire quand même.
Oui, c'était même pas prévu par la Charte des Nations Unies. Ça a été institué pour le Vatican, avec lequel vous avez certainement des relations très importantes.
Surtout ce matin.
je crois qu'il faut le considérer comme une sorte d'adaptation à un contexte, mais en même temps, comme une victoire de l'opinion publique mondiale qui en a marre de considérer la Palestine comme un pays occupé et en quelque sorte n'ayant pas les droits comme tous les autres pays à l'indépendance. Donc ça
oui, pourrait... et à se défendre contre l'occupant.
Absolument. Et donc, cet problème, pourquoi finalement Israël refuse ? Parce que finalement, il refuse d'avoir, si j'ose dire, un alter ego en face de lui, c'est-à-dire il refuse l'égalité. Et tant qu'il n'y aura pas l'égalité de statut, il y aura toujours conflit. Et c'est cette question, les Palestiniens redemandent l'égalité. Je crois que c'est le mot central.
Et c'est nouveau, ça, parce qu'au fond, peut-être que je me trompe, mais il me semble que tout à fait, là, au moment de la création de l'État d'Israël, donc dans les années 47-50, 48, il me semble que ce sont les États arabes, ou si c'est pas les États, en tout cas les mouvements arabes, qui s'opposaient à la création de l'État d'Israël. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de revanche ?
Oui, alors... ça nous refait de l'histoire. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en 1947, le 29 novembre, d'ailleurs justement, il y a 65 ans que cela s'est passé, et l'autorité palestinienne a choisi cette date anniversaire pour revendiquer son État qui était promis en 1947 par l'Organisation des Nations Unies, 65 ans après. Eh bien, à l'occasion, il y a eu un partage qui a été imposé par les Nations Unies aux Palestiniens et imposé aux Arabes qui étaient contre. Pourquoi ils étaient contre ? Parce que ce partage était en quelque sorte un fait accompli que l'on voulait imposer aux Palestiniens sans aucune négociation qui aurait pu être compensée, qui aurait pu être obtenue d'une compensation, une sorte de plan Marshall pour les Palestiniens victimes de cette spoliation d'une grande partie de leur territoire.
Il n'y a pas eu de négociation à l'ONU.
Il y a eu un petit peu, mais le problème c'est que ceux qui négociaient ne représentaient pas vraiment la société palestinienne. Et de ce point de vue-là aussi, le mouvement palestinien avait été en quelque sorte battu et écrasé après la grande grève et grand mouvement d'opposition des années 36-39, à travers lesquels finalement la répression anglaise avait liquidé le mouvement national, plus En plus, il n'y a pas eu de chance parce que les Palestiniens étaient représentés essentiellement par des notables, des grandes familles, d'ailleurs rivales entre elles. Une partie était soutenue par la Jordanie, l'autre par l'Égypte. Enfin, je vous passe les détails. Mais surtout, une des familles avait été impliquée, la famille Husseini, avait été impliquée dans un soutien à Hitler. Donc, tout ça était dans une logique en 1946, pas très favorable aux Palestiniens. Et puis, il y avait tout le choc, bien sûr, provoqué par la découverte de la tragédie juive. Et puis d'autre part, pour les juifs survivants, il faut bien reconnaître que les pays d'Europe n'ont pas voulu des juifs survivants. Ils les ont envoyés en Palestine. Donc tout ça fait une drôle d'histoire. En même temps, il est clair que le mouvement des juifs survivants, si on peut dire, eh bien, est devenu majoritairement favorable à un état refuge, puisqu'ils avaient l'impression que d'une part ils avaient été refusés, et d'autre part qu'ils avaient été liquidés sans aucune solidarité internationale pendant la guerre. Donc il faut bien reconsidérer cette histoire initiale, mais pour lequel ce sont les Palestiniens qui ont payé, oui. Et pour lequel ils n'avaient aucune responsabilité.
Oui, alors tu dis que les peuples, enfin les nations européennes ont refusé au fond de recevoir les juifs. Mais il y avait quand même depuis longtemps l'idée d'un foyer juif en Palestine, parler d'un État d'ailleurs.
Absolument, mais ce foyer national, qui était préfiguration d'un État, était soutenu à l'international par un mouvement sioniste, comme tu as dit tout à l'heure, mais qui était minoritaire dans la communauté juive, minoritaire. Beaucoup de juifs espéraient s'intégrer dans les sociétés qui étaient européennes. Mais le problème, c'est qu'elles ne se sont pas du tout, elles n'ont pas été intégrées, puisqu'on les a refusés, aussi bien sûr le nazisme qui a, mais même l'URSS, finalement on n'a pas été capable d'intégrer de manière correcte ces juifs, et l'Europe occidentale, eh bien finalement a été complice de l'Holocauste quelque part. Donc tout ça fait que le monde juif dans sa majorité s'est trouvé, dans les survivants, s'est trouvé refusé. Il faut le considérer aussi de cette situation de l'antisémitisme de cette époque-là, qui est une réalité politique.
Et qui crée justement pour la population le côté obsidional, comme on dit, hein, c'est-à-dire d'être enfermé et d'être en permanence en danger.
Absolument.
C'est pas pour les gens. Ou les gens depuis justement, parce que c'est quand même, tu dis 45, ça fait un moment, plusieurs générations, dans cette façon de ressentir les choses.
Oui, et c'est effectivement l'objet d'une propagande permanente de l'État israélien qui entretient dans sa population le complexe obsidional, c'est clair. Et ce complexe obsidional qui était fondé probablement pendant longtemps, ne l'est fondamentalement plus du tout maintenant, mais il est relancé par le système. Je prends alors justement, ça actualise cette problématique, c'est ce qu'on appelle la menace existentielle. La menace existentielle a été, une fois que les Palestiniens ont accepté de négocier, une fois que les Palestiniens ont accepté le compromis, issu d'ailleurs des Nations Unies en 1947, que les Palestiniens ont abandonné même la lutte armée pour faire une résistance populaire non violente, surtout en Cisjordanie, il est évident que les Palestiniens ne représentaient plus, comme il l'avait dit avant, une menace existentielle pour Israël. Ils représentaient simplement la volonté d'un peuple qui voulait vivre à côté d'Israël et non plus contre Israël. Donc ça a disparu. Il fallait retrouver une menace existentielle pour justifier tout refus de négocier. Et cette menace existentielle est devenue l'Iran.
Alors, pas devenu aussi le Hamas dans la mesure
Le Hamas,
il y a eu un affrontement quand même
Aucune menace militaire sérieuse.
Un prétexte, bien
sûr. C'est présenté comme un petit agent d'Israël et de l'Iran, qui n'est même plus, puisque la Hamas a rompu avec l'Iran ces derniers temps. Oui. Non, ce qui est extraordinaire, je voudrais... Il y a eu une réussite extraordinaire du côté d'Israël de démontrer depuis 20 ans, puisqu'on a la date même exacte quasiment du démarrage de cette campagne, qu'aujourd'hui, il existe depuis 20 ans une menace nucléaire de l'Iran qui pèserait sur Israël et potentiellement sur l'Europe, sur les États-Unis, alors que cette menace réellement n'existe pas, et qu'existe en contraire une menace nucléaire israélienne qui existe aussi depuis 40 ans.
Mais d'ailleurs,
il y a des armes nucléaires israéliennes qui sont pointées sur le monde arabe, et en particulier sur l'Iran, et qui sont prêtes à sortir à la minute même. Et donc, on ne parle pas de cela. Et les gens croient, et ça c'est le rôle extraordinaire du silence du silence médiatique. Ouais. On croit que ce qui existe, c'est ce qui est dit par les médias. Ouais. Et ce qui n'est pas dit par les médias n'existe pas. On parle sans arrêt de la menace nucléaire iranienne qui n'existe pas.
Voilà, c'est...
On ne dit rien sur la menace israélienne qui existe, et donc, pour l'opinion, il y a une menace nucléaire iranienne.
Et pourquoi ça passe comme ça? Alors là, il faut le dire aussi, expliquer ça.
Tu dis qu'on ne dit pas, si quand même, moi j'ai lu dans Le Monde, il n'y a pas longtemps quand même, tu me diras que ce n'est pas du tout développé, mais le fait qu'Israël avait décidé pratiquement de balancer une bombe, je ne sais pas si elle est atomique ou quoi, ou une fusée, sur les installations iraniennes, soit à la fin de l'année, soit au printemps 2013, et que ce serait Obama et les États-Unis qui auraient essayé de dire prêt à Israël, mettez la pédale douce.
Oui, absolument.
Donc, on sait très bien que la plus grande menace qui existe dans cette région-là, elle vient d'Israël.
Et alors maintenant, on commence à le savoir.
Oui, c'est ça.
Et pourquoi? Parce que maintenant, le développement du système israélien, développement nucléaire et de sa politique est contradictoire avec les intérêts stratégiques américains dans la région. Et c'est depuis que les Américains considèrent l'establishment américain, pas forcément l'opinion, parce qu'il faudra y revenir, c'est le travail qui est fait par le lobby pro-israélien aux États-Unis, le système dominant aux États-Unis estime que la politique d'Israël est contradictoire avec les intérêts stratégiques américains parce que ça les met en difficulté avec le monde arabe où se trouve le pétrole. Et y compris avec l'Iran où se trouve aussi le pétrole.
C'est ça qui bloque tout.
C'est ça l'enjeu.
L'homme aussi qui a bloqué, quoi, que le conflit aurait pu survenir
Bien sûr.
Il y a quelques années déjà.
Bien sûr. Donc Obama, il a considéré, et c'était un changement par rapport à, y compris par rapport à Bush, que la question du nucléaire israélien est un vrai problème. On ne peut pas poser la question du risque nucléaire iranien potentiel, virtuel, si on ne parle pas de la question du nucléaire israélien. Et jusque-là, ça a été le silence total, sauf un moment ou un autre, quand Obama est venu au pouvoir, une secrétaire d'État chargée des relations internationales, je ne sais plus comment elle s'appelait, une femme, a parlé comme ça, de manière incidente, du nucléaire israélien. Pour la première fois depuis 40 ans. Et cela veut dire que l'administration Obama voulait mettre ça sur la table. Pour le moment, on n'a rien dit, parce que c'était pas très grave, mais Obama s'était prononcé contre un certain type de désarmement nucléaire. Bon, les Israéliens n'étaient pas très inquiets parce que Obama attaquait surtout l'Iran. Mais, en 2010, à la conférence de révision du traité de non-prolifération, après avoir, où tous les pays membres participent, après avoir refusé pendant, presque 40 ans, de mettre en question l'armement nucléaire israélien, alors que les pays arabes le demandaient, Obama, pour la première fois, a soutenu la demande pressante des pays arabes de poser la question d'une conférence qui établirait une zone qui poserait la question d'une zone dénucléarisée au Moyen-Orient, nuclear free zone, comme on dit. Alors les Israéliens étaient un peu stupéfiés. Ils ont dit, bon, on va négocier, ça va se calmer. Mais non. C'est que, après, les Américains ont continué à faire pression. L'Agence internationale de l'énergie a envoyé une lettre à tous les gouvernements de les Nations Unies pour dire quelles sont vos opinions sur cette question, pour faire qu'Israël soit sous contrôle de l'Agence internationale de l'énergie. Et puis, finalement, vous savez très bien que la campagne électorale et présidentielle Obama-Romney a été soutenue à fond par Israël pour battre Obama.
Pour battre Obama.
Sur cette question-là. Donc c'est un enjeu politique extraordinaire. Oui. Et la conférence qui était prévue pour la dénucléarisation au Moyen-Orient, qui était prévue en 2012, était votée par la quasi-totalité des pays des Nations Unies, n'a pas eu lieu sur pression d'Israël. Mais Obama veut la faire quand même, elle aura lieu peut-être en 2013. Et si elle n'a pas lieu, ça sera un échec terrible pour Obama. Et les Israéliens disent, nous n'assisterons pas à cette conférence. Ça va être curieux parce qu'on va parler d'une région dénucléarisée au Moyen-Orient sans la seule puissance nucléaire au Moyen-Orient. Pour Israël, ce sera difficile de supporter cette situation. S'ils y vont, ils vont se faire accuser. S'ils y vont pas, on va les accuser d'être des lâches. Donc là, il y a une situation pour Israël qui est très difficile.
Moi, je voulais, Jacques, revenir sur quelques lignes. Alors, c'était dans Le Monde diplomatique, je ne sais pas si tu as lu cet article du mois de décembre qui vient de sortir. Tout est simple à Gaza. hein, de Serge Halimi. Alors, je voulais revenir donc sur ce qu'il disait par rapport à, aux États-Unis, comme tu l'as évoqué. Hein, on peut voir une petite vidéo. On peut voir, te voir sur Internet une petite vidéo où tu évoques le fait. Justement sur le conflit possible, enfin entre avec l'Iran et de montrer dedans dans cette intervention. Donc tu avais peut-être été filmé.
Je suis totalement diplomatique.
Non, je veux dire, sur Internet, il y a une vidéo où tu évoques justement la relation importante enfin, entre le nucléaire civil et militaire, et tu évoques le fait que les Israéliens attendaient, c'était une période par rapport aux élections des États-Unis, si c'était pas Obama, et le risque, si c'était Romney, par rapport aux républicains, qui pourraient donner le feu vert, justement, à Israël pour taper, pour cogner sur l'Iran. Ouais. Et là, je voulais dire, alors, donc, revenir à la première page du Monde diplomatique, parce que on évoquait l'importance dans le conflit, évidemment, enfin, le fait que peut-être Israël n'attaquerait pas l'Iran, avec l'importance des États-Unis, et le fait qu'il souligne les États-Unis sont alliés à l'Irak, maintenant, qui est allié à l'Iran, qui soutient le régime syrien, que les États-Unis entendent renverser. Les États-Unis sont également alliés au Qatar, qui subventionne le Hamas, et à l'Arabie saoudite, qui finance les salafistes, inspirateurs de djihadistes décidés à tuer des Américains. Mmh. Il montre un peu la boucle. Oui. Alors, bon, il évoque ça, justement.
Il ne voit pas les contradictions à l'intérieur de cette boucle.
Alors, bah, justement, ça, bah, peut-être. Alors, ça, c'est pour ça. Donne ton point de vue là-dessus.
C'est-à-dire qu'il y a une situation, comme l'a dit Jacques, tellement complexe qu'on a du mal à démonter les chevaux, quoi. Voilà, situation. Je crois que aujourd'hui, encore une fois, les États-Unis ont bien compris qu'il y avait des bouleversements inévitables dans le monde arabe, qu'avec eux, il fallait établir des relations qui permettent d'avoir la possibilité pour États-Unis d'avoir accès aux ressources pétrolières et gazières de cette région. Et dans cette région, il y a l'Iran, par lequel ils essayent. D'autre part, d'autant plus que du côté de l'Iran, la Chine, la Russie et d'autres pays établissent des relations très étroites avec l'Iran, y compris sur le plan énergétique. Donc, finalement, les États-Unis affaiblis par leur défaite militaire en Irak, leur défaite militaire en Afghanistan, lesquelles, d'ailleurs, en certaine mesure, l'Iran a donné un coup de main aux Américains contre les talibans. On donnait un coup de main en Irak aussi pour stabiliser un peu la région. Donc, finalement, on s'aperçoit que les Américains sont obligés de réorganiser leur domination dans la région. Et cette réorganisation passe par un type de rapport avec le monde arabe que les Israéliens ne veulent pas. Et avec le monde musulman, d'ailleurs.
Et alors, est-ce que tu parlais tout à l'heure du lobby juif aux États-Unis? Oui. Est-ce que ce lobby extrêmement puissant aurait perdu son influence au point qu'il y aurait au fond une, peut-être pas un basculement complet, mais en tout cas un renversement des positions états-uniennes sur la question?
Oui, alors d'abord, je vais te dire, je préfère le lobby pro-israélien. Parce que d'abord, ce lobby pro-israélien n'est pas composé seulement de juifs, il est composé surtout, je dirais presque, il est composé bien sûr de juifs américains, mais pas tous. Il est surtout composé de néoconservateurs,
de protestants,
c'est à peu près la même chose, qui sont des excités protestants, qui sont d'ailleurs un peu antisémites sur les bords, entre nous. Bon, donc ce lobby-là, il est extrêmement puissant pour bloquer éventuellement Obama. Il a été financé par Israël, par des juifs très riches américains, dont le grand responsable à Las Vegas de tous les systèmes de... Enfin bref. Et donc il y a là, mais il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, la communauté juive a été partagée, et la majorité des juifs américains a voté pour Obama. Environ 65%, d'après ce que je sais.
Oui,
donc, il faut bien faire attention.
Mais
il y a un lobby.
Lobby pour Israël.
D'ailleurs, c'était l'objet d'un livre fondamental qui a été écrit par deux universitaires américains en 2007-2008, et qui a fait un bruit terrible, qui a d'abord été boycotté, mais en fait, qui est maintenant devenu un livre, qui est maintenant un livre de poche en France, parce que c'est un livre qui est important, édité par La Découverte, et qui démontre le rôle négatif pour les intérêts américains du lobby pro-israélien. Au début, c'était. Maintenant, il est un peu un livre de chevet de certains stratèges américains. Mmh. Hein. Et donc, tout ça fait qu'il y a, comme tu dis, des contradictions accrues entre Israël et États-Unis sur cette stratégie. Et Obama, il est un peu inquiet de la façon dont Netanyahou. Mais en même temps, il y a une contradiction. À savoir que pendant ce temps-là, la pression était tellement forte aux États-Unis qu'Obama a cédé en partie. Il a donné beaucoup d'armements aux Israéliens. Il a aussi donné beaucoup d'armements aux États du Golfe qui s'estimeraient menacés par l'Iran. Et tout ça crée une situation, une militarisation de la région extrêmement dangereuse. Oui, parce qu'on peut estimer qu'un incident peut venir ou pas faire éclater la chose. Les États-Unis ont livré des armes, des bombes de pénétration aux Israéliens qui seraient utilisées, non pas contre le Hamas, mais qui seraient utilisées, bien entendu, contre des sites nucléaires enterrés en Iran. Donc tout ça est extrêmement dangereux et je crois qu'il faut considérer aussi qu'Israël tente à travers cette pression à se doter d'un système militaire complet qui pourrait leur permettre d'éviter un soutien nécessaire des États-Unis pour attaquer. Ce qui, évidemment, pour les États-Unis, les mettrait dans une situation extrêmement dangereuse parce que les Israéliens mettraient leur fait accompli. L'Iran répliquera. En ce moment, les Américains se sentiront obligés, par la pression, y compris du lobby, y compris des États-Unis, de défendre Israël, donc d'attaquer l'Iran, dans une logique, non récupérable. Quoi. La situation est très, très dangereuse.
Je lisais un article il y a deux, trois jours sur ce sujet dans Le Monde d'un journaliste qui citait un ancien ambassadeur israélien et qui concluait cet article assez long par la formule compte tenu des oppositions qui existent aujourd'hui entre Israël et la Palestine, nouvel État non membre de l'ONU, avec en plus les réactions d'Israël et les punitions, nouvelle colonisation, cet ancien ambassadeur israélien disait si une solution peut envisageable, peut arriver, elle ne peut venir que de Washington. Elle ne peut venir que de Washington. Eh oui. Autrement dit, je ne sais pas si cet ancien ambassadeur est encore persona grata en Israël, mais en tout cas, il avait l'air d'être véritablement très affirmatif sur cette idée que, quels que soient les discours, quels que soient même, au fond, cette nouvelle donne qui permet à l'autorité palestinienne d'être devenant un État, de saisir la Cour pénale internationale et de bénéficier aussi d'autres avantages. Quel que soit cet aspect théoriquement positif, il n'y a pas de solution s'il n'y a pas Washington qui s'en mêle.
Alors là, je crois qu'il faut bien voir qu'en Israël même, il y a un débat dans certains milieux. Pas dans les milieux populaires, parce qu'on le bloque par le système médiatique, il n'y a pas de débat dans l'opinion. Hein, l'opinion est abreuvée.
Et le mouvement pour la paix, tu te rappelles
Mais il y a encore des gens là-dessus, mais ils n'ont pas beaucoup de la parole, mais il y en a encore. Mais le débat, il a lieu chez les militaires. Chez les militaires. Et c'est des services de renseignement dans les milieux diplomatiques. Israélien, il y a même un diplomate représentant l'ambassadeur d'Israélien en Afrique du Sud a démissionné parce qu'il n'était pas d'accord avec la politique de Netanyahou. Dans ces milieux-là, il y a une réelle, et dans un milieu médiatique, enfin le journal le plus important, mais qui n'est pas lu beaucoup, mais qui est lu par les milieux informés, comme on dit, le Haaretz, qui pose des questions sur les risques qu'entraîne pour Israël la politique israélienne. Donc, ça, et d'autre part, il est clair qu'aujourd'hui, les États-Unis, Israël n'a pu mener cette politique depuis 40 ans que grâce au soutien américain. Sinon, c'était pas possible, pas possible. Donc maintenant, le soutien américain est en train de se décrocher par rapport à Israël. Donc ça inquiète beaucoup. Mais les gens les plus lucides en Israël estiment que si les États-Unis ne font pas la pression nécessaire sur Israël pour qu'il arrête sa logique de guerre à la fois contre le monde arabe, contre les Palestiniens et contre l'Iran, eh bien, on n'arrivera pas à une solution. Non seulement on n'arrivera pas à une solution, mais on arrivera à une situation, je dirais presque apocalyptique. N'oublie pas que là, dans deux mois, on aura peut-être un gouvernement de colons.
Oui, alors ça,
ce serait le reste au pouvoir en France en 1962. Hein, alors ils sont prêts à tout.
Les élections, alors justement, revenir ça, l'importance des élections par rapport à ce qui s'est passé, justement, les tirs qu'il y a eu là, le déclenchement. Alors, qui a déclenché, là, encore une fois? Et là, un élément, la grille de lecture des médias français. Oui. Par rapport à comment c'est présenté et comment...
Oui, c'est toujours dans une logique, il y a d'un côté le Hamas qui attaque et d'autre côté les Israéliens qui ripostent par représailles parce qu'ils ont été victimes d'une agression. Ça, c'est le schéma. Et c'est le schéma, mais qui est en train de changer un peu, mais c'est vrai. Alors, je l'ai dit d'ailleurs pour la question de la menace existentielle de l'Iran sur Israël. Mais le grand succès politico-médiatique d'Israël depuis des dizaines d'années, c'est d'avoir réussi à faire comprendre ou percevoir par l'opinion internationale que en Palestine, enfin quand j'ai Palestine, en Palestine historique où il y a Israël et les Palestiniens aujourd'hui, les victimes de la situation étaient les Israéliens et que c'était eux qui étaient attaqués par des Palestiniens qui n'avaient rien à avoir à attaquer, et que les vrais indigènes de la région étaient les Israéliens, et que les Palestiniens étaient des éléments externes. La perception occidentale est dominée par cette logique-là, si bien qu'à chaque fois, c'est les Palestiniens ou les Arabes ou n'importe qui attaquent, et c'est les Israéliens soumis à une offensive inadmissible, qui sont obligés de se défendre, les pauvres, sont obligés de se défendre. Donc, ça, c'est un grand succès qui est en train de basculer. Les médias sont en train, il faut bien le voir, en France, j'écoute beaucoup, je suis obligé, je lis... J'ai écouté quand même des émissions, soit télé, soit radio, soit même dans les journaux, qui commencent à pencher, les journalistes commencent à être plus libérés pour parler d'un certain nombre de choses qu'ils ne connaissent pas forcément toujours très bien, mais enfin qui sont soumis aussi, je l'ai même directement, ils sont victimes d'une pression directe. Maintenant, il y a un certain type de libération. Et ça, c'est très important, et à mon avis, c'est irréversible. C'est irréversible, ce qui explique pourquoi la France est obligée de voter.
Espérons que tu as raison, mais quand même, la notion de victimisation, elle s'applique pas seulement au conflit actuel israélo-palestinien, mais elle s'applique aussi à toute l'histoire de la Shoah, à toute l'histoire de l'extermination des Juifs, c'est-à-dire que des Juifs d'aujourd'hui, vivants, survivants, ou fils de survivants, ou petits-fils de survivants, jouent sur cet horrible massacre pour se placer en victime et pour se placer non seulement victime, mais en n'acceptant pas le dialogue ou la discussion ou le débat, et en disant si vous contestez ce que moi je vous dis en tant que descendant d'une victime de la Shoah, vous êtes un antisémite. Donc on a cette position qui malheureusement doit contribuer à ce que tu disais.
L'hésitation de l'Europe sur la question palestinienne, et c'est ce que me disait Leïla Chahi, elle me disait, c'est lié au sentiment de culpabilisation qui a été créé en Europe, fondé sur des choses réelles. Absolument. De l'Europe par rapport à la situation des Juifs. Et que le problème, c'est que ce sont les Palestiniens qui sont en quelque sorte les victimes, eux, de cette situation, parce qu'ils sont, de fait assimilés aux victimes, aux agents d'Israël, ce qui est le drame historique de la période.
Et là, la reconnaissance, enfin, on voit, l'écoute, tu disais, lecture de la presse ou surtout écoute des médias, enfin télévision comme on dit souvent, propagande ou
des films aussi importants qui sortent,
ou par rapport à la radio, il y a un autre sentiment aussi, c'est ces différences de perception, comme là on l'a vu, le nombre de victimes par rapport aux victimes israéliennes des tirs, par rapport aux victimes palestiniennes, le nombre considérable, et là aussi comment marche le sentiment des gens pour développer, que dire, on l'a dit quelques fois, le classement qui est fait selon les pays d'appartenance. Eh bien, si c'est une victime israélienne, c'est les gros titres. Et si c'est des dizaines de morts palestiniens, donc c'est anecdotique.
Oui, mais justement, c'est ça qui est en train de changer dans la perception populaire. Je crois vraiment que lorsque c'est un rapport de 1 à 100, ça passe plus. Ça passe plus parce qu'on le sait. On le sait. C'est ça qui est important. C'est qu'on le sait. Et qui a aussi un grand succès aussi, je crois, dans l'opinion, c'est le fait que pendant un temps, on avait imposé l'image qu'il y avait d'un côté les terroristes, les Palestiniens.
C'est ça aussi, côté, simplement, hein, pour faire très rapide.
Et maintenant, c'est exact, l'image a été totalement renversée. Ouais. Grâce à la résistance populaire non violente, où les Palestiniens se battaient bras nus contre l'armée israélienne, et maintenant c'est de plus en plus connu, il y a des films, il y a des reportages, etc., par rapport à une armée israélienne qui frappe des civils de plus en plus. Et donc l'image est renversée. L'image maintenant, c'est Israël qui est un État terroriste sur la population civile palestinienne. Et ça, ça aussi, ça entre dans l'opinion, et je crois qu'il faut en tenir compte pour comprendre.
Mais on n'a pas parlé de la vie, au fond, des sociétés, du monde civil, de la Cisjordanie, d'une part, et de Gaza, d'autre part.
Et d'Israël aussi.
Or, il y a eu des études là-dessus, j'en ai lu il y a pas longtemps quelques extraits qui montrent à quel point cette vie de tous les jours, aussi bien à Gaza où il y a encore des camps de réfugiés, où il y a une densité de population fantastique, 10 fois plus élevée que aux Pays-Bas, en Cisjordanie, des régions, des zones où les Palestiniens, l'autorité palestinienne doit partager avec Israël les questions de sécurité, hein, c'est-à-dire sur le plan de l'alimentation, bah c'est les Palestiniens qui sont responsables, mais sur le plan de la sécurité, il doit y avoir un partage, donc on peut imaginer de la coexistence de flics israéliens et de flics palestiniens. D'autre part, cette idée que j'évoquais tout à l'heure, que j'entendais à la radio, disant que les entreprises de colonisation du côté de Jérusalem Est, en allant vers le lac Tibériade avec la frontière jordanienne, risquait de couper encore une fois la Cisjordanie. Est-ce que ces éléments-là ne contribuent pas à décomposer au fond peu à peu ce qui est la vie et la source de cet État palestinien?
Ben c'est l'objectif, hein, puisqu'on veut empêcher toute viabilité économico-sociétale d'un futur État palestinien. Et il faut être encore plus précis finalement. La Palestine est une prison. Il y a la prison, je dirais presque globale, à Gaza. Les Palestiniens sont entourés.
Le mur, hein, le mur.
Alors, il y a le mur. Et puis, il y a toutes les checkpoints qui bloquent tous les villages les uns par rapport aux autres. Et les villes par rapport aux villages. Donc, vous ne pouvez que très difficilement sortir de votre village ou alors attendre des heures que les femmes accouchent dans les voitures en attendant. Et il y a des femmes qui meurent là-dessus, etc. Donc, il y a des petites unités enfermées. Par les checkpoints plus ou moins mobiles, et on peut enfermer comme
là,
on veut.
Mais tu parles de la petite zone de Gaza.
Non, je parle aussi
de la Cisjordanie.
À Cisjordanie, il y a à peu près 500 checkpoints. Il y a des gens qui de Bethléem que je connais qui sont pas allés à Jérusalem depuis 10 ans. Ils peuvent pas. Hein. Donc il faut aussi considérer cette pilar. Plus les milliers de prisonniers qui sont en prison israélienne et parfois installés d'ailleurs comme prison, y compris en Palestine, ce qui est quand même hors du droit normal international. Donc il y a cette logique-là qui est qu'il faut absolument avoir. Deuxièmement, il y a une logique aussi, une structure de dépendance économique totale de l'économie palestinienne ou de ce qu'il en existe par rapport à l'économie israélienne. Alors tu l'as déjà un peu indiqué, toute relation commerciale entre la Palestine et l'extérieur est contrôlée par Israël. Alors t'imagines qu'est-ce que ça peut donner comme possibilité. En plus, il pique les droits de douane qui reviennent aux Palestiniens pour le garder. Quoi. Un véritable vol.
Mais là, ça s'est fait récemment.
Ça s'est fait là, pour sanctionner encore la reconnaissance de l'État. Ouais. Donc la dépendance terrible de l'économie. Et puis la dépendance aussi, comme tu disais, sécuritaire. Parce que c'est vrai que les accords d'Oslo ont de fait, dans un rapport de force qui était défavorable aux Palestiniens en 1993, ont de fait imposé une situation de dépendance de la Palestine vis-à-vis de l'Israël, à la fois sur le plan sécuritaire, comme tu disais, il y a un accord de coopération entre les forces israéliennes et palestiniennes pour le contrôle de la région, et puis d'autre part sur le plan économique. Et sur le plan économique, c'est vrai aussi, il faut quand même ne pas oublier de le dire, qu'il y a des intérêts financiers ou industriels ou de type capitaliste, etc., entre des financiers et des industriels israéliens et palestiniens. Il y a là-dessus, et cette situation-là, bien sûr, est très favorable à une logique de corruption, hein, puisqu'on est obligé, pour les faire admettre, de verser quelque chose. Plus le système de sécurité, il est lié aussi, comme il est lié à Israël, il est très facilement touchable par la corruption. Hein, c'est vrai qu'on...
Oui,
donc ça... tout ça crée une situation tout à fait terrible pour les Palestiniens qui ont du mal à bouger, quoi, qui ont du mal à sortir
oui,
de cette situation.
Ce que tu me dis me fait penser à la situation de l'occupation allemande ici en France dans les années 40-44, à savoir que il y a eu des collaborations de commerçants et d'industriels avec les Allemands, et au point même que à la libération, eh bien effectivement, ils n'ont pas réussi à imposer, notamment à, puisque c'est aussi un sujet dont
c'est
on parle
Renault.
Allemand, ils n'ont pas réussi à imposer un contre-plan du CNR, c'est-à-dire ils ont été obligés de se plier à la mise en place d'un système de protection. Oui. Donc, c'est vrai que si tu parlais de prison, et c'est de, en parlant de la Palestine, et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très dramatique, parce qu'au fond, c'est voilà, un État membre de l'ONU observateur et prisonnier.
Alors, tout à l'heure, on parlait, Josie, après cette partie, peut-être une petite partie musicale, mais on va juste évoquer l'aspect justement propagande, parce que on voit c'est terrifiant ce qui se passait justement à Gaza, comment c'est traduit, ça peut être traduit en montrer les images, hein, montrer le discours là encore très favorable, et aussi dire les interventions, les noms choisis des interventions militaires, comme si Israël était hors du droit international, qui pouvait tout se permettre. Et alors, la qualification même de... Alors, les poètes, évidemment, s'en est pas. On peut dire des communicants, genre pluie d'automne, opération plomb durci, et puis la dernière, quand même, alors là, c'est de la manipulation, pilier de défense. Et donc, ça a été souligné, je voulais juste dire ça, sur l'émission sur France Culture, où Pierre Jox est intervenu, justement, en disant...
Pierre ou Alain Jox ?
Non, Pierre Jox.
Pierre Jox, oui.
Pierre Jox est intervenu pour dénoncer un peu, alors, la terminologie aussi religieuse, qu'il y a dans des termes religieux, enfin bon, la même chose quand on parle de Tsahal, hein, c'est-à-dire c'est pas la même chose de Tsahal que d'une armée, évidemment, des crimes commis par une armée, et il évoquait en fait par rapport, je pense le dernier là, comme on dit, pilier de défense, que là on transformait, lui il avait l'air de dire, une attaque. Là aussi, cette attaque-là était sous couvert d'une terminologie presque biblique, religieuse, sacrée, et qu'elle était acceptée par les gens, et lui voulait justement dénoncer le mensonge, remettre les termes réels par rapport à ça. Et ça, est-ce qu'on vit justement depuis très longtemps dans cette grille de lecture par rapport à l'État d'Israël ?
Non, mais ça, c'est un phénomène permanent dont je parlais tout à l'heure, la transformation de l'image. Mais il y a quelque chose qui s'est passé aussi, qui va changer en partie, c'est le fait que l'État soit maintenant admis. Ça veut dire que maintenant, la Palestine ne sera plus un territoire occupé dont on ne connaît pas très bien le statut. Puisque finalement Israël contestait même le fait qu'ils occupaient un territoire, parce qu'ils estimaient que c'était un État, c'était un territoire sans origine étatique, et donc ils étaient un pays où ils allaient en quelque sorte s'installer. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, ce n'est plus un territoire non identifié.
Oui, mais alors
et maintenant, c'est un pays. Comme État, et ça change dans la responsabilité des États internationaux. Pourquoi ?
Oui, mais la résistance est justifiée.
Absolument, mais elle est toujours légitime.
Mais ça justifie officiellement au plan international le fait que les Palestiniens peuvent se débarrasser du colonisateur.
Non, mais oui, mais ça, justement, et c'est surtout ce que maintenant la Palestine va signer les conventions internationales qui régissent les relations internationales, les conventions de Genève et tout ça. Mais les conventions de Genève, maintenant, ont toujours autorisé tous les États tous les États, et pas simplement celui qui est victime, à les faire appliquer, y compris pour un autre État qui est victime d'une occupation ou d'une agression. Ce qui veut dire, un autre État, ce qui veut dire que n'importe quel État aujourd'hui peut demander ou exiger l'application des conventions de Genève à la Palestine comme État souverain, alors qu'avant, il ne pouvait pas le demander parce que la Palestine n'était pas connue comme un État. Ce qui peut, s'il y a des États qui ne se dégonflent pas, ce qui est possible avec l'émergence dans le monde arabe d'États qui ont un peu plus de respect de leur propre opinion, ce qui peut changer aussi la situation parce que, encore une fois, la Convention de Genève dit les États doivent respecter et faire respecter les conventions de Genève de défense des droits, enfin, droits humanitaires minimum, tu vois. Ça, c'est très, très important. Or, lorsque l'Égypte a fait sa révolution, elle continue actuellement, j'espère que le consensus va tourner.
Ça veut dire
qu'il y a un mouvement très puissant, populaire. Mais il avait le ministre des Affaires étrangères à l'époque, le nouveau gouvernement post-Moubarak, El Arabi il s'appelle, qui est très pour la Palestine, tout ça, représentant la majorité de l'opinion égyptienne. Il a convoqué un journaliste du Haaretz, Akiva Eldar, qui lui est un homme aussi qui cherche la paix entre les deux peuples, entre le peuple haïtien et le peuple israélien. Il a convoqué au Caire. Et qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il dit, vous êtes un homme très bien, vous défendez une juste cause, je vous soutiens. Mais je peux vous dire, nous ne voulons pas la guerre avec Israël, nous sommes pour respecter les accords, même si sur le gaz on va discuter. Mais, si un jour l'armée israélienne tire sur une manifestation de la résistance populaire non violente en Palestine, vous aurez 1 million d'Égyptiens sur la place Tahrir. Et ça, il faudra en tenir compte. Il faudra en tenir compte parce qu'à ce moment-là, il y aura une demande populaire arabe pour ne pas laisser Israël impuni dans cette affaire. Et d'ailleurs, c'est ce qui vient de se passer avec l'opération Plomb, je ne sais quoi, pilier de défense. Netanyahou avait l'intention de faire beaucoup plus là, à Gaza. Mais qui a bloqué le truc? C'est l'Égypte. Non pas Morsi parce que c'est un pacifiste, parce qu'il avait l'opinion publique égyptienne qui n'admettait plus ce qui a été fait il y a 4 ans avec la complicité de Moubarak avec l'opération. Il faut bien voir considérer ça et les États arabes qui deviennent démocratiques minimum, si on peut dire, eh bien, auront la capacité et j'espère la volonté de faire défendre la Palestine de manière beaucoup plus efficace maintenant que l'État palestinien est un État comme les autres. Officiellement, il n'est pas membre parce qu'il vote pas. Hein, c'est tout, c'est la différence. Enfin, c'est pour ça que je suis assez optimiste à moyen terme, mais à court terme, je suis inquiet. Ça, c'est vrai.
Bernard, voilà. Juste une petite intervention, s'il vous plaît. Comme on en avait parlé un petit peu hors micro, là, est-ce que tu peux un peu évoquer la question sociale en Israël? Justement, les difficultés aussi, les...
Très bref, non?
Brièvement,
bon, très brièvement, parce qu'il y a peut-être un petit peu de musique. Simplement pour dire que Israël est le pouvoir qui mène la politique la plus néolibérale du monde occidental. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire une extrême aggravation des inégalités. C'est-à-dire qu'il y a une couche très riche qui s'est enrichie. Et une couche très pauvre qui s'est encore appauvrie. Et une couche moyenne qui est très inquiète. Qui est très inquiète dans la partie, si on peut dire, basse moyenne de ces couches moyennes. Il y a donc ces contradictions énormes qui ont provoqué, comme vous le savez, le mouvement des indignés israéliens.
Là aussi,
ça joue quand même.
Beaucoup,
dont une partie avait intitulé une place à Tel Aviv, la place Tahrir. Il faut quand même penser à ça aussi. Dans la société israélienne, il y a des...
Pas beaucoup médiatisé.
Netanyahou a réussi à détourner l'attention, mais sa situation reste. Donc, la question pour la gauche, entre guillemets, israélienne, qui est très difficile, c'est d'arriver à lier situation sociale et situation de guerre. C'est de dire, si la guerre continue avec le monde arabe et le monde musulman entre Israël et ce monde-là, eh bien, ça suppose des dépenses de guerre encore plus importantes, des risques de destruction, des risques de tout, hein, alors que nous n'avons même pas de possibilité de nous loger. Et donc, toute la question, c'est de savoir si cette opposition israélienne au budget de guerre, hein, va trouver une force, y compris de s'exprimer aux élections, parce que je crois que c'est là qu'il y a un lien possible d'une majorité d'une population majoritairement victime de la situation économique, de la politique économique et sociale du gouvernement israélien, de pouvoir contester et de vouloir un certain type d'accord. Et c'est pour ça qu'Israël insiste beaucoup sur la menace iranienne pour créer un consensus dans la société en disant, voyez, mais attention, d'abord c'est notre sécurité qui est en jeu, après on verra. Et c'est pour faire oublier la question palestinienne, pour faire oublier tout ça. C'est ça l'enjeu.
Et faire oublier la question sociale.
Et faire oublier la question sociale.
Mais tu es peut-être optimiste en pensant que des gens qui sont plus pauvres ou qui craignent pour leur façon de vivre, leur mode de vie, puissent avoir une espèce de volonté et ne soient pas simplement résignés et ne soient pas complètement intoxiqués par la propagande qui en effet dit ce que vous avez à craindre d'abord, c'est pas de crever de faim, c'est l'Iran.
Oui, oui, bien sûr, mais cette bataille, elle n'est pas gagnée. C'est pour ça que les diplomates israéliens pensent qu'il faut une pression extérieure.
Il y a eu quand même, on peut quand même évoquer les anarchistes contre le mur. Le film qui montre que quand même il y a des Israéliens,
brisées, hein, faut voir ça,
voilà, il y a quand même des Israéliens qui luttent aussi aux côtés des Palestiniens contre le mur. Donc on peut évoquer ce film de, j'ai oublié le nom du réalisateur.
Shai.
Voilà.
Oui, ben là aussi, c'est une façon pour les médias habituels de dire qu'il y a une unité totale des Israéliens, alors que c'est pas le cas, montrer qu'il n'y a pas justement tout ça, cette agitation et ces revendications, et de dire il y a une sorte de d'unité de l'ensemble du peuple d'Israël. Encore une fois, qui est pas vrai, qui est une manipulation.
Voilà.
Alors juste rigoler peut-être un petit peu parce que c'est quand même assez grave. Mais tu nous parlais tout à l'heure de l'État et je voulais dire ça quand même, le refus de l'adhésion à l'ONU par rapport aux pays qui ont refusé pour la Palestine. Alors, il y a les États-Unis, on s'en doute. Ensuite, le Canada, hein, pour les auditeurs, je voulais le dire. La République tchèque, le Panama, les îles Marshall. Et alors, la Micronésie, je sais pas, t'as entendu. Et ne riez pas, Nauru et Palo. Et certains disaient, on ne savait pas que
c'est
ça existait.
Îlots, c'est des îlots.
C'est des îlots, hein, c'est ça. Donc, par rapport à la liste de d'États qui existent et dont on ignore, justement, que...
Il y a quand même 138 pour.
Et eux, ces pays-là, sont membres et ne sont pas observateurs. En particulier, Nauru et Palo.
L'important, c'est qu'il n'y a eu que 9 pays dont tout le monde sait la réalité. Oui. Et qu'il y a eu 42 abstentions, c'est 138 pour. Car en des associations, ça veut dire qu'ils n'étaient pas forcément contre l'État, mais ils étaient contre aujourd'hui l'admission. Mmh. Ce qui veut dire quand même qu'il y a un consensus mondial. Mmh. Et surtout qu'il y avait un consensus mondial, y compris de l'Europe, sauf la Tchéquie, hein, qui est bon, voilà. Et ça veut dire que pour la première fois aussi, les pays européens ont voté différemment des États-Unis à l'ONU. Et ça, pour les Palestiniens, c'est très important. Parce que si l'Europe commence à faire pression, ça va obliger les Américains à en tenir compte aussi, y compris si l'Europe soutient un certain type d'aspect de la politique d'Obama contre Israël. Tout ça va être compliqué, mais je crois qu'il y a quelque chose d'ouvert, mais à court terme, je suis très inquiet.
Josie, alors...
voilà, c'est la fin de l'émission.
C'est la fin de l'émission, tu sais.
C'est la fin de l'émission, si vous avez quelque chose à dire.
Deux, trois minutes. Alors, peut-être juste ça, une annonce, hein. Puisqu'on l'annonce, alors moi, on répète hein, ça par rapport à la manifestation contre Notre-Dame-des-Landes, hein, soutien évidemment à ce qui se passe là-bas et contre le gouvernement. Héros et sa clique, manifestation le samedi 8 décembre, samedi prochain, pour l'Île-de-France à 14h au métro Belleville. Ça c'est important, hein. Par rapport à cette situation-là, on en a parlé ce matin, et aussi, alors, rappelez que pour Publico, donc, vous savez, les fameuses soirées le vendredi 7 décembre, donc c'est demain, à 19h30, hein, après la librairie continue, les soirées vidéo de la librairie, alors, le titre du film qui sera projeté Grand Soir et Petit Matin de William Klein, Mai 68, les symboles de l'autorité sont contestés par des millions de grévistes. Alors on espère que ça va reprendre. Et d'étudiants, William Klein, film au jour le jour, la projection sera suivie d'une discussion. Alors tout ça, la librairie du Monde Libertaire, 145 rue Hamelot, on vous le rappelle, hein, les métros, Oberkampf, République, Fille du Calvaire, l'entrée libre et gratuite et la sortie aussi. Voilà.
Alors il est midi moins deux. Eh ben, remercie Bernard Ravenel d'être venu nous exposer.
C'est moi qui merci de me permettre de m'exprimer sur un nombre de choses sur lesquelles je n'ai pas l'occasion assez de parler, mais bon. Cette semaine, j'ai quatre réunions sur la question israélien aujourd'hui. Cette semaine.
Pour les auditeurs qui voudraient prolonger, je te dis, sur une vidéo, donc sur Internet.
Hein. Ça, j'ai été interviewé, effectivement.
Exactement, à peu près 15 minutes, très intéressante. Donc, s'ils veulent te voir aussi, quelquefois.
Oui, il y a mieux, mais c'est.
Mais non, mais je pense que c'était il y a quelques mois, donc les choses ont un petit peu changé, donc ils peuvent se rendre compte justement de l'accélération.
Mais la pertinence aussi de mon diagnostic, aussi, à ce moment-là, on vérifiera.
Et l'accélération de l'histoire. Et l'accélération de l'histoire, voilà. Et donc voir ta silhouette, ton visage, donc sur Internet, puisque nous, on le dit, c'est de la radio et on le revendique. Et voilà. Et on revendique la radio.
Et cette émission pourra être aussi réécoutée sur le blog Chronique Hebdo.
Et relue, parce que je dis, c'est souvent une relecture plus qu'une écoute, puisqu'on a la possibilité d'avancer le curseur, de revenir en arrière si on n'a pas compris.
Ah oui, ça, c'est pas mal.
Donc c'est quelque chose de très important, qui existe justement pour Radio Libertaire, pour d'autres radios aussi, mais surtout pour Radio Libertaire. Voilà.
Au revoir tout le monde.
Eh bien alors, à la semaine prochaine.
Salut.
Au revoir.